Oui, bonjour.
Voilà, bonjour, sur Fréquency, Pierre-Yves Cornu, qui est auteur d'un article consacré à Fred Gouin. Alors Fred Gouin, le titre, cette question, qui au Mans se souvient de Fred Gouin? Alors le problème, c'est qu'il faut déjà savoir qui c'est Fred Gouin, mais quelques indices, je vais vous donner ça tout de suite. Donc quand on parle de Fred Gouin, on parle de Berthe Silva, on parle de disques Odéon, on parle du temps des cerises, on parle de la chanson des blés d'or, voilà, ça peut-être revenir un petit peu dans les gens qui s'intéressent à la chanson française ou aux plus anciens qui écoutent la radio. Voilà, Fred Gouin, c'était un chanteur, c'était un musicien, c'était un artiste plutôt connu en France avant-guerre, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, il a été très très connu en fait entre les deux guerres. Il a connu une carrière magnifique à cette époque et puis on verra après, mais il a disparu complètement.
Ouais. Alors Fred Gouin donc est né au Mans en 1889, donc ça remonte déjà à plus de 100 ans cette histoire.
Oui, oui, il aurait déjà maintenant 120 ans.
120 ans, oui.
Ouais, et, ouais, il est né au Mans, il est né tout près de la cathédrale et de l'hôtel de ville, puisqu'il est né rue Saint-Flasso,
ouais.
Dans une maison qui aujourd'hui a disparu, bien sûr, parce que la rue Saint-Flasso a été remaniée au cours des années.
Ouais.
Il est dans une famille assez modeste, son père faisait des chaises, sa mère était couturière, et il a eu quatre frères et sœurs.
Mmh. Et il découvre la chanson en étant enfant de chœur à la chorale, voilà, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui.
Donc comme quoi la chorale peut mener à tout.
Oui, voilà. Après, la famille va quitter Le Mans, elle, ouais, va aller s'installer à Paris.
Mmh.
Alors, pour quelles raisons, on ne le sait pas trop. On pense que c'est pour des raisons financières, en fait. Bon, parce qu'il y avait du travail à Paris, quoi.
Oui, plus qu'au Mans, à cette époque-là, peut-être. Alors, il est question de petits formats à dessous. Alors, un petit format, c'est pas un petit format, c'est pas un petit livre. Un petit format, parce que j'ai cherché un petit peu, c'était... en fait, c'est des partitions, c'est bien ça?
Voilà, donc tous les musiciens, tous ceux qui ont joué de la guitare dans les années 80 s'en souviennent.
Oui.
C'est des petites partitions qu'on achetait où il y avait les portées avec les notes de la mélodie, souvent les accords de guitare,
et puis les paroles.
Voilà. Voilà.
Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les vides-greniers, les brocantes, il y a encore des petits formats qui traînent, ça s'appelle comme ça, un petit format, c'est une petite partition en fait, liée à une chanson, et c'est en achetant ces petits formats que Fred Gouin s'est mis à la musique et s'est mis à chanter, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore la radio, Fréquencier n'existait pas.
Eh oui.
Et il n'y avait pas non plus beaucoup de reproductions phonographiques. Hein. Le phonographe, on est à ses tout débuts.
Ouais. C'est encore un matériel réservé à une certaine élite. C'est pas, voilà, populaire. Fait, oui. La radio n'existe pas.
Et donc le seul moyen d'apprendre les chansons, c'est de soit de lire les partitions,
ouais,
ou quand on ne sait pas, c'est de les écouter. Et pour les écouter, il existe les chanteurs de rue.
Voilà.
Et donc les chanteurs de rue chantent la chanson dans la rue. Et mais après, vendre le petit format pour que les gens puissent chez eux retrouver cette chanson qui est à la mode.
Donc lui a commencé, si je vous comprends bien, en achetant des petits formats, en chantant les chansons et en revendant ces petits formats aux passants qui venaient pour découvrir la musique à la mode à l'époque. C'est un petit peu ça l'idée?
Voilà, c'est ça. Donc il était installé au viaduc d'Auteuil, qui était un grand viaduc où passaient à la fois le train et les piétons. Et il chantait des chansons dans la rue, voilà. Donc, c'est vraiment le tout début de sa carrière. Il est encore très très jeune et on l'appelle le môme Marjolaine. Il a une certaine réputation déjà dans le quartier. On l'appelle le môme Marjolaine et il vend les chansons.
Ouais. Alors après, on apprend qu'avec l'argent qu'il a gagné en vendant ses petits formats et en poussant la chansonnette dans la rue, il réussit à s'acheter une mandoline, et puis après une guitare, et puis après un banjo. Donc ce qui va lui permettre, au début du XXe siècle, de pouvoir avoir la chance d'enregistrer un disque. C'est bien ça, en 1912-1914, des disques sur la marque Odéon.
Il n'est pas encore sous la marque.
Il est pas encore.
Le premier disque, c'est chez Perfectaphone.
Ah.
Il n'est pas sous le nom à l'époque de Fred Gouin, il est sous le nom de Vaillard.
Mmh.
Alors pourquoi il a choisi ce pseudonyme, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est son premier pseudonyme. Et ces disques-là sont juste avant la guerre 14,
ouais,
entre 2012...
1912 et 1914, oui.
Voilà, donc il enregistre ces disques. Malheureusement, la guerre arrive et donc il est obligé de mettre sa carrière entre parenthèses parce qu'il part à la guerre comme
tous les jeunes de cette
malheureusement
époque-là,
beaucoup de
oui.
Français.
Et puis après, il a la chance, lui, de revenir et revient à Paris. Et puis en 1920, là, c'est le début vraiment de sa carrière.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout de suite après la guerre, il n'est pas chanteur, il prend une carrière de musicien. Hein, il joue de la mandoline, il joue de la guitare, il joue du banjo. Donc il joue dans différents orchestres qui servent essentiellement à accompagner des danseurs. Donc il crée d'abord un premier trio qui a une vie assez éphémère. Et ensuite il fait un duo avec un type, un accordéoniste qui s'appelait Dead. Et ils vont comme cela animer les bals. Ils vont aussi accompagner beaucoup de chanteurs, entre autres sur des enregistrements. Donc on retrouve un certain nombre d'enregistrements où le duo Dead et Fred assure l'accompagnement.
Alors c'est l'époque, ça s'appelle les années folles,
C'est des années folles,
les
c'est
années
le début
20,
des
oui.
années folles, oui. Ensuite, il va s'associer avec un accordéoniste qui est très très célèbre à l'époque, qui s'appelle Maurice Alexander. Et là, ils vont animer des bals, entre autres les fameux bals de la rue de Lappe, qui étaient fréquentés par tous les mauvais garçons de Paris.
Ouais.
Et Fred, qui a toujours dans l'idée de chanter, en profite de temps en temps pour placer une chanson ou chanter un refrain. Et là, ça va être ses vrais débuts de chanteur, parce qu'en fait, il va être reconnu par la maison Odéon,
Ouais.
qui va lui proposer des enregistrements.
Et des passages à la radio, Radio
Et voilà.
Paris, Radio PTT. Donc c'était vraiment l'occasion, à cette époque-là, c'était déjà la radio et l'occasion de faire entendre sa voix.
Oui, ça va être vraiment un artiste de la radio. Il a une émission hebdomadaire où il vient avec des musiciens interpréter des chansons, mais on attend le passage de Fred Gouin à la radio.
Alors,
C'est là qu'il devient vraiment une grande vedette.
étonnamment, en 1928, je découvre ça, il ressort vous avez écrit une vieille chanson de Jean-Baptiste Clément qui semblait oubliée, de 1866, qui s'appelait Le temps des cerises. Et il enregistre cette chanson-là, et il en vendrait, en ce que vous avez dit, 400 000 copies de ce disque-là, et pour une chanson qui a été tombée un petit peu dans l'oubli.
Alors, elle était complètement tombée dans l'oubli. Hein. C'est une chanson qui va être très très célèbre en 1870, lors de la
Ouais.
Commune. Et puis après, elle va un peu tomber dans l'oubli. Et Fred Gouin entend cette chanson-là, il dit, mais c'est drôlement bien ce truc-là. Et donc, il l'enregistre. Et effectivement, il a un coup de génie parce que la chanson va être adoptée par les Français et donc il va en vendre 400 000, ce qui est absolument énorme pour
Pour
l'époque.
l'époque, oui, parce que les 400 000 disques, même aujourd'hui, les artistes qui vendent 400 000 copies de leurs disques, il n'y en a pas énormément. Enfin, c'est quand même assez très important.
Oui, c'est rarissime pour l'époque. Hein. Il va vraiment là faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un tube, quoi.
Un tube, voilà, avec une chanson de Jean-Baptiste Clément, Le temps des cerises. Et puis, c'est là qu'entre en scène une autre interprète, la peut-être plus connue de nos contemporains. Il s'agit de Berthe Silva.
Oui, alors il va rencontrer Berthe Silva tout simplement parce que Berthe Silva est dans la même maison disque, hein, elle est aussi chez Odéon. Et ils vont donc passer ensemble à la radio. Et ils vont devenir très proches. Et ils vont même enregistrer ensemble quelques duos qui sont, à mon avis, les meilleurs moments de la carrière de Fred Gouin, parce que c'est là où sa voix est vraiment la plus belle.
Alors, les titres de duo, par exemple, est-ce que vous en avez quelques-uns en tête?
Là, je ne les ai pas là sous la main. Je ne me souviens plus du titre des duos. Malheureusement, faut que je les recherche, mais je ne les ai pas, je ne les ai pas sous la main là.
Alors, les années 30 arrivent, on est maintenant dans les années 30, et puis, il va avoir son titre phare de l'époque, c'est la chanson des Blés d'Or.
Tout à fait, oui, ça va être
Un
là
immense
aussi un
succès.
grand moment, oui. Ça va être vraiment un grand succès pour lui. Il va vraiment là encore vendre beaucoup, beaucoup de disques et être beaucoup, beaucoup écouté à la radio. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que je lisais il n'y a pas très longtemps un livre de Modiano. Modiano qui est un auteur très connu, hein, prix Goncourt, prix Nobel de littérature. Et dans un de ses livres qui se passe en 1941-42, il dit, et par la fenêtre, on entendrait Fred Gouin chanter la chanson des Blés d'Or.
Eh ouais.
Donc on voit bien que ça a été quelque chose qui, quelque part, va marquer une époque.
Alors après il y a la guerre, il descend à Marseille, on va avancer un petit peu dans l'histoire, il rejoint Berthe Silva, qui, elle, va décéder en 1941. Mais après la guerre, donc il a, à la fin de la guerre, en 1944, il s'engage en résistance, il prend le maquis, et il reprend, il revient dans la musique, il essaie de repartir dans les années d'après-guerre, mais peut-être que c'est pas aussi simple qu'avant pour lui.
Oui, enfin sa carrière s'était arrêtée avant, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
À partir de 1935, il est sur le déclin. Il rompt avec la maison Odéon.
Ouais.
Parce que la maison Odéon, elle avait fait avec lui la même chose qu'avec Beatrice Silva, c'est-à-dire qu'elle avait signé un contrat qui était très très favorable à la maison de disques et un petit peu moins pour le chanteur. Et voilà, donc Fred Gouin s'est aperçu qu'il s'était un petit peu fait avoir sur son contrat. Donc il va quitter Odéon et il va rentrer chez Pathé Marconi où il ne va faire malheureusement qu'un disque. Parce que la mode des chanteurs comme lui, des chanteurs des années 20, est en train de disparaître.
Oui.
Voilà, pour laisser place à un nouveau type de chanteur avec des voix beaucoup moins puissantes mais plus suaves. On pense à Redaker, on pense à Jean Lumière et bien sûr à Tino Rossi.
À Tino Rossi.
Voilà, et donc lui il va enregistrer deux chansons de Tino Rossi qui vont être reprises par Tino Rossi dans Marinella. Et ben, ce répertoire ne lui convient pas du tout, en fait, ça ne correspond pas du tout à sa voix, et ça ne va pas très bien marcher.
Ouais.
Et puis il a des problèmes de santé, il fait de l'asthme, etc., et donc il décide de mettre un terme à sa carrière. Il va encore chanter un peu dans les années 35, 36, 37, et après il va s'arrêter définitivement.
Ouais. D'ailleurs il meurt le 18 février 1959, il meurt, on dit, dans l'anonymat et la misère. Il est même enterré sans descendants, sans amis, dans la fosse commune d'un village, donc dans un cimetière près de Niort.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une autre période. Quand il va quitter la chanson, il va donc s'installer le long de la Marne. Il va d'abord acheter une belle maison parce qu'il a gagné pas mal d'argent, quand même, malgré le contrat de la maison Odéon. Il va ouvrir aussi une guinguette où il va de temps en temps chanter. Ça va marcher pas trop mal. Malheureusement, 1939 arrive.
Oui.
La France perd la guerre, les Allemands occupent le territoire. Et donc, vous l'avez dit, Fred Gouin va quitter sa guinguette et aller à Marseille rejoindre Berthe Silva.
Oui.
Bon, vous l'avez dit, Berthe Silva meurt assez rapidement. Et donc, il remonte vers Paris. Mais voilà, sa maison est occupée, la guinguette ne fonctionne plus. Et bon, il va quand même rester un petit peu à Paris. On va l'appeler pour le STO, donc ça ne lui convient pas du tout. C'est pas du tout dans l'esprit de Fred Gouin d'aller en Allemagne travailler. Et donc, il prend le maquis.
Oui.
Et après-guerre, quand il revient dans son restaurant, malheureusement, effectivement, on n'en est plus autant de la belle équipe, autant de douaneaux, des petites barques sur la Marne, et son restaurant ne marche plus.
Ouais.
Alors, donc, il est ruiné et il est obligé de revendre ses propriétés. Et il va s'installer à côté de Niort.
Ouais. Et donc c'est là qu'il meurt en 1959. Donc curieux destin pour celui, vous écrivez, pour celui de cet homme qui vendit quand même 1 700 000 disques. Donc les années 30, c'était quand même une production très très importante, un succès qui est vite, malheureusement, vite retombé pour lui après-guerre.
Oui, oui, tout, même avant-guerre, hein, à partir de l'arrivée de gens comme Tino Rossi, il va commencer à décliner. Quoi.
Alors, autre intérêt de cet article, c'est qu'on découvre des photos de ce Fred Gouin, alors des photos un petit peu officielles, et puis des photos plus inédites, une qui est très sympa, on le voit en train de vendre des frites sur un marché. Alors ça, c'est assez étonnant.
Oui, parce qu'en fait, quand il arrive à côté de New York, il a plus d'argent, il faut qu'il gagne sa vie. Et donc il achète un camion Citroën et il fait une baraque à frites qui comme ça vend des frites à travers tous les marchés de la région.
Ouais.
Et ça va être les dernières années de sa vie. Il va être marchand de frites dans la région de Niort.
Dans la région de Niort. En tout cas, c'est une belle histoire à retrouver dans La Vie Mancelle, numéro 461, en vente chez votre marchand de journaux. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Cornu, d'avoir bien voulu nous raconter cette histoire.